Paul inspiré de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours changé. Amen. Amen. Donc, si vous avez votre Bible ce matin, je vous invite à tourner avec moi à Éphésiens, chapitre 2. Et on va commencer ce matin en parlant de comment trouver du sens dans un monde insensé. Combien de vous, vous êtes d'accord que le monde est vraiment insensé? On voit tout ce qui se passe et on voit toute la folie, on voit toute la haine qu'il y a dans le monde et on voit vraiment que ce monde est bouleversé. Les gens sont dans la confusion. Les gens sont dans la crainte et la peur. Même aux États-Unis, dans les dernières quelques semaines, il y a un monsieur qui se promène et qui tire sur les gens. Il y a, je crois, 9 personnes qui ont été tuées dans une courte période de temps. C'est insensé. Il n'y a aucun sens à cela. Amen. Et c'est la même chose ici au Québec. On voit les choses qui se passent. Et dans, quelqu'un a mentionné, notre invité a mentionné que ici dans la province du Québec, nous avons le taux de suicide chez les adolescents le plus élevé dans l'Amérique du Nord. Et si on regarde le taux de suicide dans l'ensemble du monde, le Québec a le taux de suicide le plus élevé. Et voyez-vous, le monde est vraiment dans la confusion. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tout le monde dit une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus obligé de vivre selon le mode de ce monde. Amen. On peut vivre une nouvelle vie. On peut avoir un sens, une direction pour notre existence. On peut découvrir notre raison d'être. Et on peut mener une vie qui est vraiment comblée, une vie qui est heureuse, une vie qui porte du fruit, une vie qui sert les buts et les desseins de Dieu. Amen. Combien c'est merveilleux que même dans un monde insensé, on peut trouver du sens. Et on va lire en Éphésiens chapitre 2, commençant à verset 1. Éphésiens, je vais prendre le temps de vous laisser tourner dans vos Bibles ou de regarder dans vos feuilles. Éphésiens, le deuxième chapitre, et verset 1. Vous étiez morts, et n'oubliez pas que c'est l'apôtre Paul qui parle, il s'adresse aux chrétiens ici. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La Bible dit, le Saint-Esprit dit que nous étions morts. Tout le monde dit, j'étais mort. Même en ayant la vie naturelle, même en, voyez-vous, la plupart des gens que nous voyons dans la rue, les gens que nous voyons dans nos magasins, avec qui vous travaillez, la plupart des gens que vous voyez à tous les jours sont morts. Vous vivez avec les morts. Amen. Vous n'avez pas besoin d'aller visiter la cimetière pour voir les morts. Vous voyez les morts qui sont sur deux pieds, qui marchent, qui travaillent, qui parlent et qui font toutes sortes de choses, mais ils sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot mort vraiment veut dire séparés. Ils sont séparés d'avec Dieu et parce qu'ils sont séparés d'avec Dieu qui est un esprit et ils sont des esprits, leur esprit est mort. Leur corps physique est en vie, mais leur esprit, leur cœur est mort, séparé d'avec Dieu. Amen? Et c'est ça que nous étions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dans lequel vous marchiez autrefois. Tout le monde dit autrefois. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous ne sommes plus supposés de marcher comme nous marchions autrefois. C'est une nouvelle vie. Amen. Hallelujah. Comme dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, tout le monde dit autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, je veux que vous voyez, le monde entier, selon l'épître de Jean, dit que le monde entier est sous la puissance du malin. mais la plupart du monde, ils ne le savent pas. Est-ce que vous êtes d'accord? La plupart des gens, ils pensent qu'ils ont une belle vie. Ils pensent qu'ils sont riches. Ils pensent qu'ils ont toutes les... Pas tout le monde, hein? Il y a des gens qui savent qu'ils sont dans la misère, ils veulent s'en débarrasser. Mais c'est pourquoi le taux de suicide est si élevé ici. Mais il y a d'autres personnes qui ils ont tout ce que l'argent peut acheter, ils ont une belle maison, ils ont une famille, mais quand même ils ont un vide, ils sont morts à l'intérieur. Et on voit ici que ces gens marchent aujourd'hui selon la puissance des ténèbres, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et les gens ne savent pas qu'ils sont esclaves au péché. Ils ne savent pas qu'ils sont esclaves du diable. Ils ne savent pas que, dans le fond, ils sont comme les marionnettes et qui sont manipulés par le système de ce monde et par le diable. Et ça, c'est de valeur, n'est-ce pas? Mais c'est ça le cas pour tous ceux qui ne sont pas en Jésus. C'était le cas pour moi et c'était le cas pour vous aussi. Vous étiez morts. Moi aussi, j'étais mort. Mais Dieu, qui est riche, tout le monde dit Dieu est riche. Il est riche en quoi? Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a sauvés. Alléluia. Combien de vous êtes contents d'être sauvés? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, tout le monde est ensemble, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, quand vous êtes nés, naturellement, vous êtes né avec la nature de votre père Adam, votre grand-père, votre arrière-arrière-arrière-grand-papa Adam. Vous aviez sa nature et vous viviez selon les convoitises de votre chair, vous viviez selon les pensées vraiment inutiles, vous étiez prisonnier de Satan et prisonnier du péché. Mais maintenant, la Bible dit, à cause de la miséricorde de Dieu, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Amen. Et il nous a fait asseoir en lui. C'est-à-dire que je ne suis plus en Adam. Si je suis chrétien, je suis maintenant en Jésus-Christ. Et où est-ce que Jésus se trouve? Il se trouve à la droite du Père. Amen. Et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi je peux régner dans la vie comme un roi. Je ne suis plus obligé d'obéir au désir de la chair. Je ne suis plus obligé d'obéir à la nature pécheresse. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tout le monde dit, c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Amen. Alléluia. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est un de mes versets favoris de toute la parole de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Dieu a un plan pour ma vie. Il a un but pour ma vie. Je suis destiné à faire quelque chose d'important ici sur la terre et vous aussi. Amen. Vous avez une destinée. Vous êtes appelé à faire quelque chose d'important. Mais si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas en mesure de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Mais on est sauvé pour les œuvres. Amen. Dieu nous sauve par sa grâce pour qu'on puisse le servir dans la foi et dans la joie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, il y a trois choses, tout simplement, que je veux que vous saisissiez aujourd'hui. Numéro un, c'est vraiment en haut de vos notes. La vie sans Jésus n'a aucun sens. Laisse-moi vous dire que la vie sans Jésus est insensée. Amen? La vie sans Jésus-Christ n'a aucun sens. Et c'est pourquoi on a des personnes qui, selon le monde, ont eu du succès. Ils ont réussi dans les affaires. Ils ont réussi dans plusieurs domaines, mais ils sont vides à l'intérieur. Hein? Notre ami Alain, il va partager tantôt son témoignage, mais je sais qu'il est venu au monde dans le sud de la France, pas loin de Monaco. Moi aussi, j'ai vécu 2 ans de temps à Nice, en France, sur la Côte d'Azur. Laisse-moi vous dire, il y a des milliers, des millionnaires qui habitent la Côte d'Azur. Et je m'en souviens un jour, on est allé voir à Monaco, visiter quelques personnes qu'on connaissait, et on voit des gros bateaux, hein, des bateaux qui sont des bateaux privés avec les choses pour les hélicoptères et tout le kit. Laisse-moi vous dire, c'est de l'argent, c'est du fric, on dirait, hein? Ça prend du fric pour acheter un bateau de même. Mais laisse-moi vous dire une chose. J'ai vu un bateau là et quelqu'un m'a dit, « Hey, tu sais, celui qui était propriétaire de ce bateau-là, il s'est suicidé la semaine passée. » Hein? Laisse-moi vous dire, l'argent ne peut pas vous acheter le bonheur. La vie sans Jésus n'a aucun sens. Mais avec Jésus, nous avons un but, nous avons une raison d'être. Amen. Et je pense que c'est le temps pour l'Église de se réveiller et de réaliser que Jésus est venu pour me donner la vie et la vraie vie. Et ma vie est destinée à avoir du sens. Amen. Alléluia. La vie sans Jésus n'a aucun sens. Deuxièmement, Dieu veut vous donner une vie nouvelle. Dieu ne veut pas tout simplement réparer votre vieille vie. Hein? Il ne veut pas juste faire une rénovation d'une vieille maison. Il veut vous donner une nouvelle vie. Il veut enlever votre cœur de pierre. Il veut vous donner un cœur de chair. Et si vous êtes en Jésus-Christ, c'est déjà fait. Vous êtes déjà la créature. 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Alléluia. Mais même si Dieu veut vous donner cette nouvelle vie, troisième chose qu'il faut saisir aujourd'hui, c'est qu'il faut choisir de vivre pour Jésus. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais Dieu met devant nous le choix, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais Dieu dit qu'il faut choisir, et c'est à nous de choisir. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais combien de vous, vous savez que le chemin qui mène à l'enfer est large, mais le chemin qui mène au ciel, le sentier est étroit. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Est-ce que c'est difficile d'aller au ciel? Non, c'est très facile. On accepte Jésus par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais il faut quand même choisir. Il faut prendre le choix. Et il y a des milliers de personnes dans notre ville, dans notre province, qui ont besoin de choisir Jésus afin de vivre cette vie nouvelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut choisir de vivre pour Jésus. J'aime tellement 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, qui dit qu'à l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, pourquoi? Afin que ceux qui vivent, soulignez cette partie de ce verset, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Laisse-moi vous dire une chose. Mon cœur est tellement enflammé avec ce message parce que je vois trop de chrétiens et il faut qu'on s'examine soi-même. Il faut qu'on sonde notre propre cœur aujourd'hui. Il faut qu'on se pose la question, pour qui et pourquoi est-ce que je vis aujourd'hui? Est-ce que je vis vraiment pour Jésus? Est-ce que je vis vraiment pour son royaume? Ou est-ce que je vis pour moi-même et je demande de l'aide de Jésus? Est-ce que vous voyez la différence? Il y a des gens qui veulent faire tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent rester le maître de leur vie. Ils veulent prendre toutes les décisions. Ils veulent faire tout ce qu'ils veulent faire. Et ils veulent demander, Seigneur, bénis mes plans, bénis mes projets. Laisse-moi vous présenter une meilleure façon de vivre. Au lieu de faire votre propre chemin et de demander Dieu de bénir votre chemin, pourquoi pas vous présenter devant Dieu en disant, Seigneur, ma vie t'appartient. Je suis mort avec Christ. J'ai été ressuscité ensemble avec lui. Je suis en Jésus-Christ et maintenant je me présente comme un sacrifice vivant. Fais de moi qu'est-ce que tu veux. Montre-moi le chemin que tu as déjà tracé pour moi. Révèle à mon cœur le plan que tu as déjà dessiné pour moi. Montre-moi les œuvres que tu as préparées pour moi avant la fondation du monde. Parce que ton plan, ton chemin, ton sentier, tes projets sont déjà bénis. Et si je me mets dans ton sentier, je suis déjà béni. Amen. Ça, c'est une meilleure façon de vivre, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ça prend une décision. Et on a deux personnes ici ce matin qui ont pris cette décision. Il y a beaucoup d'autres qui ont pris cette décision, mais deux qui vont faire qu'est-ce que Jésus a dit de faire et qu'est-ce que les apôtres ont enseigné de faire. En Actes 2:38, par exemple, il y a des hommes et des femmes qui ont entendu la prédication de Pierre le jour de Pentecôte. Et ils étaient vraiment touchés, convaincus par la présence du Saint-Esprit, qu'ils avaient besoin de Jésus et qu'ils avaient besoin d'un changement de vie. Et en Actes 2:38, c'est marqué, Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Savez-vous c'est quoi la repentance? C'est de changer de direction, de tourner à 180 degrés. Amen? Autrefois, je marchais dans les ténèbres. Autrefois, j'étais esclave de Satan. Autrefois, je vivais selon la nature de péché. Autrefois, j'étais vraiment contrôlé par le prince de l'air qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Autrefois, je marchais dans le mauvais sens. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, j'avais un choix à faire. Je me repens. Je tourne de bord. Je dis, Seigneur, maintenant, je marche dans un autre royaume. Je marche dans un autre sens. Je fais un autre plan pour ma vie. Amen? Ça, c'est la vie chrétienne. Il y a trop de chrétiens qui marchent dans les ténèbres, qui acceptent Jésus parce qu'ils veulent une assurance contre le feu. Il dit, oh, merci Seigneur, je suis sauvé. Je marche encore dans les ténèbres. Merci que je suis sauvé. Mais ils marchent dans le mauvais sens. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on dise au revoir à l'ancienne vie. Et dit qu'on dit bienvenue Jésus et bienvenue à ce nouvel style de vie. Amen. Alléluia. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Tout le monde dit baptisé. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il est si important de se faire baptiser? Romains 6, 4. Je vous encourage à suivre le cours Baptiste sur le roc parce que Donald va vous donner un bon leçon là-dessus, vraiment profond. Mais ce matin, laisse-moi vous juste dire ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Tout le monde dit par le baptême. En sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vous marchiez autrefois, tout le monde dit autrefois. Dans les ténèbres. Mais maintenant, parce que nous sommes en Jésus-Christ, parce que nous sommes les nouvelles créatures, et parce que nous sommes identifiés avec Jésus dans les eaux de baptême, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'enterrement de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous baptisons, pas par aspersion, mais par immersion? Parce que, de un, le mot baptiser veut dire littéralement de tremper, d'être comme on va tremper du tissu pour mettre de la teinte, OK? Littéralement, on voit dans la Bible, ils sont descendus dans l'eau pour faire les baptêmes. Et en plus, on voit que la signification du baptême d'eau, c'est un enterrement. On enterre le vieil homme. Amen? On dit au revoir. On a une cérémonie, on n'a pas besoin d'aller au pompe funéraire, mais ici à l'église, on va avoir un enterrement ce matin. On va enterrer, hein? Deux vieux gars, hein? Et on va dire au revoir. Je m'excuse, hein? On va dire au revoir à l'ancienne vie. Et c'est leur façon publiquement de dire, OK, le gars que j'étais avant, je ne suis plus. L'homme que j'étais avant, je ne suis plus. Il est mort avec Jésus-Christ. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Hein, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est pourquoi le baptême est si important, si important. On se baptise, on est enterré, on est identifié avec Jésus-Christ. En Jésus, on est mort, enterré, mais puis on ne reste pas dans le tombeau. Amen. On est ressuscité avec lui. Quand ces gars vont être immergés dans l'eau, quand ils vont aller vraiment dans l'eau, on va voir, ça c'est le vieil homme qui est enterré. Mais quand ils reviennent, ça symbolise. Il n'y a rien de spécial dans l'eau. C'est de l'eau de robinet, hein? Qui coulait en plus, tantôt. Hein? On va réparer ça tantôt. Mais c'est de l'eau normale. Mais qu'est-ce que ça représente? C'est un changement radical que Dieu a effectué dans leur cœur. Amen? Dieu a fait d'eux des nouvelles créatures, comme il a fait pour nous, qui sont en Jésus-Christ. Mais ils sont enterrés avec Jésus, identifiés avec Christ dans sa mort, mais identifiés avec lui dans sa résurrection. Pourquoi? Pour marcher en nouveauté de vie. Autrefois, vous étiez mort. Autrefois, vous marchiez dans les ténèbres. Maintenant, vous êtes mort avec Christ, enterré avec Christ, ressuscité, et vous marchez dans une vie nouvelle. Amen. Et c'est biblique. C'est Jésus qui a dit, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à chaque créature. Ceux qui croient et qui seront baptisés seront sauvés. Amen. C'est un commandement de Jésus-Christ. C'est la première occasion en tant que croyant que nous avons de vraiment mettre la parole de Dieu en pratique et d'obéir à Dieu. Des fois, les gens disent, hey, mais je serais trop gêné de me faire baptiser. Laisse-moi vous dire une chose. Vous êtes mort. Une personne morte n'est pas gênée. C'est vrai, hein? Et je pense que c'est une raison pour laquelle Dieu nous demande de se faire baptiser. C'est un acte d'humilité. On dit, Seigneur, c'est plus moi qui le bosse, plus moi qui conduis, c'est toi. Je suis mort, mais je marche à nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Et tout de suite, en fait, on va faire le baptême. Et puis, je vais demander après à notre ami Alain de donner son témoignage. Ça, c'est un bon témoignage de... un homme qui est mort et qui est ressuscité pour marcher dans la vie nouvelle aussi. Mais ça va prendre juste quelques minutes pour préparer. Moi, je vais juste enlever mon micro ici.